pour y voir le juif extérieur se refléter, le titre original, est le juif extérieur, miroir pour les professants de cet âge dans lequel, s'ils lisent avec douceur et dans la vraie lumière, ceux d'entre eux qui n'ont pas manqué le jour de leur visitation peuvent voir leur propre esprit, pour leur avantage et leur consolation éternelle, en apprenant la soumission à ce qui a en soi le pouvoir de détruire en eux l'esprit mauvais contenant quelques exceptions et arguments des Juifs contre l'apparition du Christ dans ce corps de chair. Israël en Égypte n'écouta pas Moïse à cause de leur angoisse et de leur servitude. Lorsqu'ils furent conduits dehors, ils ne cessaient de murmurer et de chercher querelle contre lui. Ils rejetèrent Samuel, comme le Seigneur le leur impute, quoiqu'ils pussent s'excuser en disant qu'ils avaient de justes raisons contre ses fils. Élie, ce puissant homme de Dieu, le grand restaurateur d'Israël, et celui qui plaida contre Baal par le feu, eut sa vie recherchée. Et quoique l'Écriture ne rapporte pas en détail la manière dont ils traitèrent les prophètes en ces jours-là, pourtant, en général, il se plaint qu'ils furent tous mis à mort sauf lui. 1 Rois 19-10. Michée fut frappé sur la joue, éraillé par le faux prophète qui le frappa, et qui dit « Par quel chemin l'Esprit du Seigneur est-il passé de moi pour vous parler ?» Et il fut ordonné de le mettre en prison et de le nourrir de pain d'affliction et d'eau d'affliction. Jérémie fut jeté dans une citerne, au point de risquer sa vie, et par ceux qui restaient, qui semblaient, à eux seuls, le consulter au sujet de la volonté du Seigneur, Jer 42:2-3, il fut rejeté avec mépris. Chap 43:2. Pourquoi m'attarder sur des cas particuliers? Quel prophète pourrais-je exclure? Car bien que toutes leurs mauvaises manières envers eux ne soient pas rapportées dans l'Écriture, le Christ atteste pourtant qu'ils les traitèrent tous mal. Les uns, ils les lapidèrent, les autres, ils les fouettèrent dans leur synagogue, les autres, ils les tuèrent et les crucifièrent, et d'autres encore, ils les persécutèrent de ville en ville. Oui, dit Étienne, lequel des prophètes vos pères n'ont-ils pas persécuté? Et ils ont mis à mort ceux qui avaient annoncé d'avance la venue du juste. Vous trouvez cela si étrange que, si le Christ avait été prophète, vous ne l'auriez pas reconnu, mais lequel des prophètes a été reconnu? Vous avez toujours quelque objection ou autre contre nous, disant que nous ne sommes pas des prophètes de Dieu, et contre notre message, disant qu'il n'est pas la pensée de Dieu. Vous tirez des arguments des paroles d'un prophète pour en combattre un autre, et de la manière dont un prophète est venu, pour combattre la manière dont un autre est venu. Si Jean vient sans manger ni boire, vous le rejetez à cause de son austérité, si le Christ vient en mangeant et en buvant, vous le rejetez à cause de sa liberté et de son affranchissement dans la vie. Or, quelle en est la raison? Le Christ lui-même en donne la raison. Matthieu 11:19. La sagesse est justifiée par ses enfants. Vous n'êtes pas les enfants de la sagesse, vous n'êtes pas engendrés de la vie, de l'esprit des prophètes, et vous ne pouvez donc pas justifier cet esprit. Vous avez obtenu la lettre des prophètes, vous êtes nés de cela, mais vous n'êtes pas nés de la vie, vous n'êtes pas nés de la sagesse. Ainsi, quiconque sort dans la même naissance que vous à partir de la lettre, vous pouvez le reconnaître, mais si quelque prophète sort avec ce même esprit, celui-là vous ne pouvez pas le reconnaître. Celui qui est né selon la chair ne peut que persécuter celui qui est né selon l'esprit. Jérusalem a été tout du long la persécutrice des prophètes, du commencement à la fin. Et cela ne vous dit-il rien? Ô vous croyants de cet âge, cherchez et voyez qui, parmi vous, ont été les persécuteurs, sinon ceux qui ont porté le nom de l'Église et de ses prophètes. Qui a tué les témoins? L'Église de Rome a tué les témoins contre elle, et les protestants ont tué les témoins contre eux. Au commencement de ces troubles, si un homme était aussi véritablement zélé qu'on veut, mais ne pouvait se conformer au livre de la prière commune et aux cérémonies, comme était-il persécuté? Non-conformiste, séparatiste, browniste, anabaptiste, tout en reconnaissant le même Christ dans son cœur et son âme, pourtant, parce que sa pratique témoignait contre le faux culte d'Église du protestant commun, il devait être pourchassé de tribunal, emprisonné, condamné à des amendes, banni. Et jusqu'à ce jour, le Seigneur ne peut faire naître aucune naissance de son esprit que le croyant zélé ne la haïsse, ne l'injurie et ne cherche à la détruire. Si le Seigneur impose quelques lois à la conscience, si elle ne correspond pas à leur conception tirée de la lettre, comme il la reproche, la méprise, l'insulte, et s'efforce de la rendre odieuse aux magistrats et au peuple. Mais pourquoi nous étonner de ces choses? Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. L'état du monde est exactement ce qu'il a toujours été. La puissance de la vérité, en tout âge, a encore été combattue par ceux qui plaidaient pour la forme. Ce serait étonnant qu'il en fût autrement. Je m'étonnerais bien davantage que les docteurs et les croyants de cet âge reconnaissent la vérité, plutôt que de les voir la combattre et la persécuter. Eh bien, amis et frères, soyez forts dans le Seigneur et fidèles à sa vérité, dans la puissance de sa force, portez l'opprobre, les afflictions de cet âge, les persécutions de ce jour qui est le vôtre. En vérité, vos yeux verront qu'il y a une récompense pour les justes, et vos cœurs en seront rassasiés, lorsque les enfants du royaume, ceux qui pensent déjà avoir le salut en cet âge, comme à l'époque du Christ et dans tous les âges précédents seront jetés dehors, dans les ténèbres du dehors, où seront les pleurs, les gémissements et les grincements de dents. Le Juif extérieur, quelques exceptions, et arguments des Juifs contre l'apparition du Christ. Les Juifs furent autrefois le seul peuple de Dieu extérieur et visible, choisi par Dieu comme peuple particulier, qui avait la promesse du Messie et l'attendait, dont la foi et l'espérance de salut étaient en lui. Oui, et précisément à ce moment-là ils l'attendaient. Pourtant, lorsqu'il vint, il fut pour eux une pierre d'achoppement et un rocher de scandale, et ils ne purent en aucune manière le recevoir. Ils étaient pleins de raisonnements, de doutes et de contestations à ce sujet, mais ne purent jamais, avec toute leur sagesse tirée de la lettre des Écritures, déterminer que c'était lui. Quoiqu'il vécût comme jamais homme n'avait vécu, quoiqu'il parlât comme jamais homme n'avait parlé, quoiqu'il fît ce qu'un homme n'avait jamais fait, pourtant ils avaient toujours quelque objection tirée de la lettre des Écritures, à laquelle sa manière d'apparaître, sa conduite et sa doctrine ne correspondaient pas selon leur jugement, et ainsi après beaucoup de disputes et de débats, ils finirent par le livrer à la mort, comme blasphémateur, trompeur, séducteur du peuple. Ils avaient contre lui bien des exceptions et des arguments, contre sa descendance, sa doctrine, ses pratiques, ses miracles, ses disciples, etc., que je ramènerai à des points principaux, afin de les rendre plus évidents. 1. Ils prirent prétexte de sa descendance et de ses proches. N'est-ce pas là le fils du charpentier? Sa mère ne s'appelle-t-elle pas Marie? Et ses frères Jacques, et Joseph, et Simon, et Jude, et ses sœurs ne sont-elles pas toutes parmi nous? Matthieu 13, 55-56. Quoi, celui-ci, ce Messie glorieux, le grand roi de gloire, dont tous les prophètes prophétisèrent et dirent de grandes choses, assurément cela ne se peut, et ils se scandalisèrent de lui. Matthieu 13, 57. C'est cela qui fit qu'ils ne purent recevoir cette doctrine céleste de sa part, qui autrement aurait pu être vie pour eux, lorsqu'il leur enseignait qu'il était le pain de vie descendu du ciel, mais ils en murmurèrent et dirent, « N'est-ce pas là Jésus, le fils de Joseph, dont nous connaissons le père et la mère ?» Comment donc dit-il, « Je suis descendu du ciel, Jean 6, 41-42, ainsi encore Jean 7, 27, nous savons d'où est cet homme, mais quand le Christ viendra, personne ne saura d'où il est. » C'était un argument serré, élevé pour effacer une impression profonde de ce qu'il était le Christ, comme on peut le voir au verset précédent. Il parle certes hardiment et dit des choses profondes, etc. Comme s'il était le Christ, mais comment pourrait-ce être lui puisqu'on sait d'où il vient, de, à son pays, ou au lieu de son éducation et de sa résidence qui était Nazareth de Galilée? Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon, Jean 1, 46? Le Christ viendra-t-il de Galilée, Jean 7, 41? Examine et vois, il ne s'élève aucun prophète de Galilée, Jean 7, 42, 3. Au temps et à la saison de sa venue, il vint autant qu'il l'entendait avant Élie. Par cet argument il pressait les disciples, comme il est signifié dans leur question au Christ, « Pourquoi donc les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement ?» Matthieu 17-10. Cela ne pouvait qu'être un argument très fort dans la bouche des scribes, qui pouvaient raisonner avec les disciples sur ce fondement. « Quels pauvres gens ignorants, stupides et trompés êtes-vous, pour reconnaître cet homme comme votre maître et le prendre pour le Messie ? Élie doit venir d'abord et rétablir toutes choses. » Quand bien même cet homme prêcherait la doctrine la plus céleste et ferait autant de miracles qu'on voudra, pourtant, s'il prétend être le Messie, il ne peut être qu'un trompeur, car le vrai Messie ne vient pas avant Élie, et tout le monde sait qu'Élie n'est pas encore venu, ni que son œuvre de rétablir toutes choses est seulement commencée. 4. Sa doctrine leur donnait matière à une foule de scandales, et ils y trébuchaient continuellement. Cette doctrine céleste mentionnée un peu plus haut, selon laquelle il était le pain de vie, ils en murmurèrent Jean 6, 41. Quand il dit seulement « Dieu était son Père », ils s'emportèrent aussitôt contre lui et dirent « Il se faisait égal à Dieu ». Jean 5, 18. Quand il dit « Détruisez ce temple, et en 3 jours je le relèverai », ils le comprirent mal et s'en servirent comme d'un argument contre lui au temps de sa passion, Matthieu 26, 61, et le lui jetèrent au visage en se moquant, Matthieu 27, 40. Quand il dit seulement à l'homme paralytique « Mon fils, tes péchés te sont pardonnés », les scribes et les pharisiens s'écrièrent aussitôt contre lui, « Qui est celui-ci qui profère des blasphèmes, qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul ?» Luc 5, 21 et 7, 49. Quand il prêcha très puissamment contre l'avarice, les pharisiens le tournèrent en dérision. Luc 16, 14. Oui, quand il ne fit que prêcher une parabole ou deux au sujet de la veuve de Sarepta et de Naaman le Syrien, cela touchant d'un peu trop près leur état, tous dans la synagogue furent remplis de colère, ils se levèrent, le chassèrent de la ville, et le menèrent jusqu'au sommet de la colline pour le précipiter. Luc 4, 28-29. Lorsqu'il dit qu'Abraham a tressailli de joie de voir son jour, il l'a vu et s'est réjoui, les Juifs répliquèrent, « Tu n'as pas encore 50 ans, et tu as vu Abraham. » Jean 8, 57. Combien cela leur paraissait absurde et impossible qu'un homme de moins de 50 ans dise qu'Abraham, qui avait vécu tant de siècles auparavant, a vu son jour. Et au lieu de leur présenter un argument pour le leur démontrer, Il leur renvoya seulement une affirmation plus assurée. En vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis, Jean 8, 58, ce qui les irrita tellement qu'ils prirent des pierres pour les lui jeter, Jean 8, 59. Maintenant remarquez, la vie dit ce qu'elle voit et connaît, et ainsi elle rend son témoignage. Le croyant sage, n'étant pas dans la vie, ne peut connaître ni recevoir ce témoignage, mais réclame des arguments et des démonstrations pour son œil sage. La vie refuse de lui répondre, au contraire, elle affirme seulement la chose plus fortement et avec plus d'assurance. Cela étant si loin de ce qu'il attend et exige pour être satisfait, allume en lui le mépris et la rage, et pour cette manière de procéder, il tient la vie pour digne d'être lapidée. Quoi, lorsqu'il devrait présenter au Christ un bel argument, par lequel il pourrait le convaincre clairement, par une raison évidente, qu'il ne pouvait voir le jour d'Abraham, et que lui, au lieu d'y répondre, ne produise qu'une affirmation plus assurée, la sagesse des hommes en cet âge ne sifflerait-elle pas une telle chose? Pourtant, telle fut alors la manière de la vie en ce jour-là, et la vie peut, si bon lui semble, reprendre aujourd'hui la même manière pour offenser les sages et les savants. Quand il parla de sa qualité de bon berger et de ce qu'il donne sa vie pour ses brebis, et que le mercenaire s'enfuit, au temps du danger pour se sauver, Jean 10, 11, 12, beaucoup de Juifs dirent « Il a un démon et il est fou. Pourquoi l'écoutez-vous ?» Jean 10, 20. Beaucoup de ceux qui étaient alors le peuple de Dieu, le peuple séparé, car les Juifs étaient un peuple séparé du monde, qui étudiait la loi et observait les ordonnances de Moïse, regardaient le Christ comme un homme qu'il ne fallait pas écouter, mais comme un insensé, comme quelqu'un qui avait un démon, comme quelqu'un qui pouvait avoir, de la part du diable, une grande puissance de tromperie pour ensorceler les hommes et les détourner de la vérité. Pourquoi l'écoutez-vous? Quel bien pouvez-vous attendre de lui? Il a un démon et il est fou. Oh, jusqu'où la chair hardie ose juger de la vie et de la puissance de Dieu, quand elle a acquis un peu de connaissance des Écritures et une forme de culte, de devoirs et d'ordonnances. Quand il dit « Moi et mon Père, nous sommes un » Jean 10, 30, ils prirent encore des pierres pour le lapider, verset 31, et ne doutèrent point qu'ils ne fissent bien, comme il apparaît dans leur réponse à sa demande pour laquelle de ses bonnes œuvres ils le lapidaient. Ils répondirent très assurément, « Ce n'est pas pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour blasphème et parce que toi qui es homme, tu te fais Dieu. » Verset 30-33. Et quand il dit, « Si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. » Jean 8-51. Alors les Juifs lui dirent, « Maintenant nous savons que tu as un démon. Abraham est mort et les prophètes sont morts. » « Pour qui te prends-tu ? » Verset 53. « Abraham et les prophètes n'étaient-ils pas des hommes saints ? N'avaient-ils pas les paroles de Dieu ? Et ne gardaient-ils pas les paroles de Dieu ? Pourtant ils sont morts. Un tel discours doit venir du diable. Maintenant tu manifestes de quel esprit tu parles. Maintenant nous savons que tu as un démon. » Et en vérité, comment les croyants de cet âge-là auraient-ils pu digérer de telles choses, étant si contraires à ce qui leur semblait être une vérité certaine dans les Écritures ? Et il y avait beaucoup d'autres choses encore qui leur étaient dures, bien que les objections qui pouvaient naître dans leurs esprits, ou inacquirent effectivement, ne soient pas mentionnées en particulier, comme lorsqu'il dit « Je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont point écoutés. » Jean 10, 7, 8. Combien cette doctrine devait nécessairement les offenser, eux qui la comprenaient et raisonnaient de manière charnelle, quoi, tous les prophètes et hommes saints avant toi étaient des voleurs et des brigands. La vérité ne serait jamais venue avant que tu ne la portes. Qu'est-il donc advenu de nos pères des siècles passés? N'étaient-ils aucunement des brebis de Dieu? Aucun d'eux n'a-t-il trouvé la porte? Car tu dis être la porte, et tu n'es apparu que récemment. Et lorsque tu dis que les brebis ne les ont pas écoutées, c'est totalement faux, car elles ont écouté Moïse, elles ont écouté les prophètes, et nous avons leurs écrits, et nous nous y tiendrons malgré toi, quelles que soient tes brebis. Quand il dit qu'ils n'étaient pas venus apporter la paix, mais la division, Matt 10, 34-35, comme ils auraient pu répondre aisément que sa propre bouche le découvrait, il n'était pas le Messie, le Sauveur, l'auteur de paix, mais l'artisan de division, la cause de rupture dans les familles mettant 3 contre 2, et 2 contre 3, Luc 12, 51-52. Quand il dit, « Quiconque commet le péché est esclave du péché », Jean 8, 34, ne pouvait-il pas bien objecter que cela condamnait toute la génération des justes, et rendait nulle la voie des sacrifices que Dieu avait institués pour les péchés commis en tout temps par son peuple, ce qui supposait nécessairement qu'il commettait le péché. Abraham, Isaac, David, Moïse et le reste des prophètes ont-ils tous commis le péché, et étaient-ils les serviteurs du péché? Il enseigna aussi que les enfants du royaume seraient jetés dans les ténèbres du dehors ces Juifs qui pensaient recevoir automatiquement le salut parce qu'ils étaient enfants d'Abraham. Matt 8, 11, 12. Oh, combien cela aurait sonné durement aux oreilles du Juif zélé, professant, qui attendait et espérait le royaume. Ainsi, dans sa doctrine, il semblait y avoir beaucoup de contradictions pour l'entendement charnel. Tantôt il disait « Je ne juge personne, car je ne suis pas venu condamner le monde ». Pourtant ne jugeait-il et ne condamnait-il pas continuellement les scribes, les pharisiens, les prêtres, les docteurs de la loi et toute cette génération de croyants? Ainsi encore, il était venu chercher et sauver ce qui était perdu, prêcher l'évangile de paix, et pourtant à un autre moment, il disait qu'il n'était pas venu apporter la paix, mais une épée, et allumer un feu, et mettre les hommes en désaccord, etc. Encore, tantôt il disait, « Moi et mon Père, nous sommes un et un autre temps, mon Père est plus grand que moi ». Tantôt il disait aux hommes de faire ce que les scribes et les pharisiens enseignaient, un autre temps, il disait aux hommes de se garder du levain ou de la doctrine des pharisiens et des sadducéens. Matthieu 16, 12. Mais à quoi bon entasser davantage d'exemples? Ô vous qui lisez ceci, attendez de connaître en vous-même cette oreille qui ne peut entendre la doctrine du Christ, tandis que vous condamnez les Juifs, ne tombez pas dans la même erreur d'incrédulité et de raisonnement, mais attendez de connaître la voix du Christ en ce jour, et de recevoir l'oreille qui peut l'entendre, car quand bien même vous seriez disposé à entendre, vous ne le pouvez pas jusqu'à ce que votre oreille soit ouverte. Nicodème, qui pouvait reconnaître en Christ un docteur venu de Dieu, ne pouvait pourtant recevoir de lui la doctrine de la nouvelle naissance, Jean 3, 4. Et il y avait beaucoup de choses que les disciples eux-mêmes n'étaient pas capables de porter, car lorsqu'à un certain moment il parla de donner sa chair à manger, non seulement les Juifs, Jean 6, 52, mais eux aussi trébuchèrent, verset 61. Et qui parmi les croyants peut maintenant le supporter ou recevoir l'interprétation qu'en donne le Christ lui-même, lui qui dit que la chair, qu'il comprenait, ne sert de rien, mais que la chair qu'il entendait était esprit et vie, verset 63, 5, à ses pratiques et à sa conduite. Comment se fait-il qu'il mange avec des publicains et des pécheurs, Marc 2, 16. Voilà un homme glouton et buveur de vin, ami des publicains et des pécheurs, Luc 7, 34. Si cet homme était prophète, il saurait qui est cette femme et de quelle espèce elle est, qui le touche, car c'est une pécheresse. Luc 7, 39. Les publicains et les pécheurs s'approchant pour l'entendre, les pharisiens et les scribes s'en offensèrent et murmurèrent, disant, « Cet homme reçoit des pécheurs et mange avec eux. » Luc 15, 1, 2. Et quand il entra chez Zachée, tous murmurèrent, disant qu'il était allé loger chez un homme qui est pécheur. Luc 19, 7. Encore, parce qu'il guérissait le jour du sabbat et justifiait ses disciples de cueillir des épis le sabbat, ils furent remplis de fureur, et ils se consultaient sur ce qu'ils pourraient lui faire, Luc 6, 3, 6, 11, et ils tinrent conseil sur la manière de le faire périr. Marc 3, 5, 6. Une autre fois, le chef de la synagogue parla avec indignation à ce sujet. Luc 13, 14. Oui, les Juifs persécutaient Jésus et cherchaient à le faire mourir, parce qu'il avait guéri un homme et lui avait dit « Prends ton lit et marche, le jour du sabbat », Jean 5, 8, 16. Et certains d'entre eux en firent un argument fort contre lui, « Cet homme n'est pas de Dieu parce qu'il ne garde pas le sabbat », Jean 9, 16. Quoi, venir de Dieu et être transgresseur d'ordonnance, ces deux choses peuvent-elles aller ensemble, lisez et considérez. Sous la loi, quelle ordonnance de Dieu plus stricte que le sabbat? Quelle ordonnance plus propre à contribuer à l'honneur et au culte de Dieu? Toute leur religion et leur culte n'en dépendaient-ils pas largement? Comment cela ne pouvait-il pas nécessairement leur être un grand scandale, dans cet esprit et cette sagesse littérale tirée des Écritures, par lesquelles ils tenaient? Pourtant le Christ, dans son apparition charnelle, était seigneur du sabbat, et dans son apparition spirituelle, il ne perd pas sa seigneurie. Encore, ils lui firent grief de ne pas enseigner à ses disciples à jeûner et prier comme Jean le faisait, Luc 5, 33, mais de leur permettre de transgresser les traditions des anciens, Matt 15, 2. Il n'était pas strict selon la manière juive de dévotion, ni strict selon la manière de Jean non plus, mais il s'opposait aux traditions des anciens pieux de l'Église juive, à la sanctification du sabbat du Seigneur, justifiant ses disciples de cueillir des épis le jour du sabbat, alors que de fait leur père, les Juifs n'avaient même pas à ramasser la manne ce jour-là, au jeûne et à la prière, car il justifiait ses disciples de ne pas jeûner et prier comme Jean, disant, « Comment pourraient-ils être dans le deuil tandis que l'époux ?» Matt 9, 15. Et considérez de quelle manière les Juifs, dans l'état où ils se tenaient, pouvaient comprendre une telle réponse et s'en contenter. 6. Ils firent objection à ces miracles, en partie parce qu'ils les accomplissaient le jour du sabbat, Jean 9, 16. De là il concluait qu'il ne pouvait être de Dieu, car s'il avait été de Dieu, il aurait observé le jour que Dieu avait commandé, et s'il ne les faisait pas par la puissance de Dieu, par quelle puissance donc les ferait-il? Ils conclurent donc, il chasse les démons par le prince des démons. Matt 9, 34. Il a Béelzébul, et c'est par le prince des démons qu'il chasse les démons. Marc 3, 22. Et ayant ainsi conclu en eux-mêmes, aucune oreille en eux n'était ouverte pour entendre quoi que ce soit qui pût être dit au contraire. et encore, en partie parce qu'ils ne répondaient pas à leur volonté en leur donnant le signe qu'ils exigeaient, car tel était toujours leur ton, « Maître, nous voudrions voir un signe de toi ?» Matt 12-38. « Quel signe nous montres-tu puisque tu fais ces choses ?» Jean 2-18. Et ils précisaient encore le signe, ils voulaient un signe du ciel, Luc 11-16. « Quel signe fais-tu, afin que nous voyions et que nous croyions en toi ?» Jean 6-30. « Nous sommes prêts à être convaincus, nous sommes prêts à croire, si tu nous donnes un fondement suffisant pour croire en toi. » Quant à tes guérisons et à tes expulsions de démons, Béelzébul, le prince des démons, peut bien te fournir une puissance avec laquelle te servir pour nous tromper et nous ensorceler, afin de nous détourner de la loi et des ordonnances de Moïse, dont nous sommes certains qu'elles viennent de Dieu, mais montre-nous un signe du ciel, sinon ne nous blâme pas de ne pas abandonner Moïse pour courir après toi. 7. Ils s'opposèrent au témoignage que l'Esprit de Dieu en lui rendait à son sujet. Quand il prononça le témoignage intérieur que l'Esprit de Dieu donnait de l'intérieur, disant « Je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie », Jean 8-12, ils s'écrièrent aussitôt « Tu rends témoignage de toi-même, ton témoignage n'est pas vrai », verset 13. Remarquez sa réponse, « Il est écrit dans votre loi que le témoignage de deux hommes est vrai, je suis celui qui rend témoignage de moi-même, et le Père qui m'a envoyé rend témoignage de moi », verset 17-18. Comment une telle réponse passerait-elle aujourd'hui, quand bien même la même vie la prononcerait, les sages croyants de cet âge ne la eurent-ils pas? Pourtant la chose est connue en ce jour, à savoir la vie que le Père engendre, et le témoignage du Père à son sujet et avec elle. Et vous qui lisez ceci, vous pourriez le connaître, si vous pouviez attendre, dans la perte de votre propre vie, de votre sagesse et de votre connaissance cela. 8. Ils s'attaquèrent à ses disciples et à ses partisans, qui étaient des femmes, des publicains et des pécheurs, le peuple commun, oui, les plus bas, les plus pauvres et les plus ignorants à leur avis, les plus aptes à être trompés et entraînés. Êtes-vous aussi séduits? Quelqu'un des chefs ou des pharisiens a-t-il cru en lui? Mais ce peuple, qui ne connaît pas la loi, est maudit. Jean 7, 47-49. Le peuple commun, le peuple ignorant, le peuple inconstant, ceux qui ne connaissent pas la loi, ceux qui ne comprennent pas les Écritures, ils courent après lui et l'exaltent. Mais lesquels des gens établis, lesquels des vraiment zélés, lesquels des sages dans la connaissance de la loi et des prophètes, lesquels des scribes et pharisiens orthodoxes qui s'attachent étroitement à Moïse, lesquels de cela croient en lui? Lequel d'entre eux peut-il tromper? Quant au peuple commun, qui, faute de connaissances tirées des Écritures, est prêt à courir après toute nouveauté, il ne vaut pas la peine qu'on s'en soucie, il est maudit, et il n'est donc pas étonnant que Dieu les abandonne à suivre ce séducteur, à exalter sa nouvelle lumière et à délaisser la bonne ancienne lumière de Moïse et des prophètes. 9. Ils lui firent grief de ne pas reprendre ses disciples et la foule étendant leurs vêtements, coupant des branches aux arbres et les répandant sur le chemin, avec les enfants qui lui criaient « Hosanna », tandis qu'il entrait à Jérusalem monté sur le petit de l'ânesse, mais qu'au contraire il les justifiait. Luc 19, 39-40 et Matt 21, 15-16. Quelle mascarade, ridicule et vainglorieuse cela paraîtrait aux yeux de la sagesse charnelle, 10, qu'il ne montrait pas une autorité suffisante pour ce qu'il faisait? Par quelle autorité fais-tu ces choses, et qui t'a donné cette autorité, etc. Marc 11, 28. Tu t'arroges une grande autorité sur le peuple de Dieu, sur leur docteur, oui, sur le temple de Dieu, le sabbat et les ordonnances, mais où est ton autorité pour agir ainsi, montre-la-nous, etc. 11. Ils s'offusquèrent lorsqu'il parla de ses souffrances et de sa mort. Nous avons entendu dans notre loi que le Christ demeure éternellement, et comment dis-tu que le Fils de l'homme doit être élevé? Qui est ce Fils de l'homme? Jean 12, 34. Assurément celui qui doit être élevé ne peut pas être le Christ qui doit demeurer éternellement et ne pas mourir. Ainsi, par une seule parole, tu as renversé tout ce que tu avais établi par ta prédication et tes miracles. Comment pouvait-il comprendre cela? Non, les disciples eux-mêmes ne pouvaient l'avaler, mais en furent troublés. Aussi le Christ le leur cacha longtemps. Et pourtant, si quelque chose est présenté maintenant, en ces jours, par le même esprit au sujet de la lumière et de la perfection, ou d'autres vérités vues dans l'esprit, parce que les hommes ne peuvent les comprendre avec leur entendement charnel, ni les faire concorder avec leur connaissance charnelle des Écritures, quelle liberté prennent-ils pour parler contre la vérité elle-même, et aussi contre ceux qui ont vu ces choses dans l'esprit et les disent par l'esprit? Or quiconque devient disciple doit attendre, dans l'obéissance, de connaître la doctrine, et ne pas penser entrer avec cette sagesse et ces raisonnements charnels tirés des Écritures, par lesquels les scribes et les pharisiens, et les croyants de cet âge-là furent exclus. Il y avait beaucoup d'autres choses encore auxquelles ils ne pouvaient s'empêcher de faire objection, comme à ces réponses à leurs questions, auxquelles parfois ils se taisaient et ne répondaient pas du tout, d'autres fois, ils ne répondaient pas directement, mais en parabole. Et combien cela offense la sagesse de l'homme, qui exige une réponse positive et directe. et parfois ses réponses pouvaient sembler tout à fait sans rapport avec la question posée, comme Jean 12, 34, 35. Le fait qu'il ne montrait de partialité envers aucun homme, car on savait de lui qu'il ne faisait acception de personne, Matt 22, 16, ne pouvait guère leur plaire, à eux qui aimaient les salutations et recherchaient l'honneur les uns des autres. Il ne montra aucun respect à Hérode le roi, mais parla de lui avec mépris, comme les hommes l'auraient estimé, « Allez, dit-il, et dites à ce renard. » Il ne montra aucun respect aux docteurs vénérables et graves de la loi, non, ni au grand prêtre lui-même. Non, il ne montra pas de respect même à ses propres disciples, mais il dit à Pierre lorsque celui-ci, avec douceur et affection, désirait que sa mort fût évitée, « À arrière de moi, Satan !» Quelle réponse dure et rude cela pouvait paraître, si Pierre avait erré par affection et tendresse pour son maître, un esprit doux l'aurait informé avec douceur, mais le traiter de diable et dire « Arrière de moi, de quel esprit cela sent-il » Diraient ceux qui professent le judaïsme, qui ne connaissent pas la vraie douceur, mais recherchent une douceur charnelle, servant de la sagesse et de la prudence charnelle, et non de vraie naissance. Non, il ne parla pas respectueusement à sa propre mère, comme l'esprit de l'homme, selon sa règle de respect, l'aurait jugé et condamné, mais dit « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi ?» Jean 2, 4, et d'une certaine manière, il nia toutes ses parentés, Matt 12, 48. Enfin, pour ne pas multiplier les exemples, ils s'offusquèrent de ces durs jugements sur tous les croyants de cet âge, qui observaient la loi de Moïse et les statuts d'Israël, ainsi que sur tous leurs docteurs laborieux et pieux, ne justifiant personne que lui-même, et ce qu'il enseignait, et quelques-uns de ses disciples. Il leur dit qu'ils n'avaient pas l'amour de Dieu en eux, Jean 5, 42. Ne pensez-vous pas que cela leur parut une accusation très dure, et pourquoi pas l'amour de Dieu? Parce qu'ils ne le suivaient pas, lui et sa doctrine nouvelle. Oui, seraient-ils prêts à dire, ils aimaient Dieu, et gardaient ses commandements, ses sabbats et ses ordonnances que lui transgressaient. Il leur imputa aussi qu'ils ne croyaient pas Moïse. Jean 5, 46. Quelle accusation injuste cela pouvait paraître, puisqu'ils étaient si zélés pour Moïse, et que leur aversion pour lui et leur controverse contre lui étaient pour la loi et les ordonnances de Moïse. Une autre accusation qu'il porta contre eux fut qu'ils n'étaient pas enfants d'Abraham, ni de Dieu mais du diable. Jean 8, 39, 44. Quel homme téméraire et censeur pouvait-il l'estimer, lui qui parlait ainsi d'eux, qui était la postérité humaine d'Abraham, des observateurs si stricts des lois et des ordonnances de Dieu, ce qui est la propriété de ses enfants, et des ennemis si résolus du diable, qu'il ne se laisserait détourner des vérités et de la manière d'adorer enseignée par Moïse et les prophètes, non, pas même par tous les miracles qu'il pouvait accomplir. Il les appela « une génération incrédule et perverse », Matt 17, 17. Il leur dit qu'ils ne connaissaient pas Dieu, quoiqu'il affirmait avec assurance qu'il était leur Dieu. Jean 8, 54, 55. Comment pouvaient-ils supporter cela? Ils étudiaient la loi et les prophètes, et en avaient tiré un grand stock de connaissances, et étaient stricts et exacts dans le culte. Certains d'entre eux, comme Paul, pouvaient être, selon la loi, irréprochables, et maintenant se faire dire qu'ils ne connaissaient pas Dieu. Non, celui qui abonde en connaissances, en dévotion et en culte, mais qui n'est pas dans la vie et la puissance pure de l'esprit, n'a pas un grain de la vraie connaissance. Il leur dit qu'ils mourraient dans leur péché. Jean 8, 21, aux paroles dures et jugements sévères, et pourtant il leur avait dit un peu auparavant qu'ils ne jugeaient personne. Verset 15. Oui, ils se crurent extrêmement offensés par lui, et ils pensèrent qu'aucun homme ayant quelque chose de Dieu en lui ne pourrait dire de telles choses, mais seulement quelqu'un qui était ennemi du peuple de Dieu et conduit par l'esprit de Satan. Ils s'expriment en ce sens, verset 48 de ce chapitre, « Ne disons-nous pas avec raison que tu es un Samaritain et que tu as un démon ?» Oui, quand il les accusa de chercher à le tuer, ils se sentaient en eux-mêmes si nets dans leur conscience qu'ils répondirent « Tu as un démon, qui cherche à te tuer ?» Jean 7, 20. Comme ils auraient pu facilement clore la controverse et, par cela même, conclure qu'il était un faux prophète, il dit que nous cherchons à le tuer, alors que Dieu le sait, il n'y avait rien de tel dans nos cœurs. Cet homme peut-il être un vrai prophète ? Pourtant le Christ savait que le Juif professant était un meurtrier, et que, pour sa religion et en son nom, il cherchait toujours à le mettre à mort. Et il n'y a pas, sur la terre, de meurtrier plus acharné du Christ, la vie que le croyant et adorateur zélé hors de la vie. Celui qui est dans la vie ne peut persécuter personne, celui qui est hors de la vie ne peut que persécuter celui qui est dans la vie. Par là, le vrai et le faux chrétien peuvent être discernés par l'œil le plus faible, simple et sincère. Et quant à leurs docteurs et interprètes de la loi, comme ils paraissaient extraordinairement amés contre eux, et combien de choses lourdes ils leur imputaient continuellement, il les appela guides aveugles, hypocrites, sépulcres blanchis, tombeaux qui ne paraissent pas, et prononça malheur sur malheur contre eux. Lisez cet endroit, Matt 23, 33, « Serpent, race de vipères, comment échapperez-vous à la condamnation de la géhenne ? Quoi, parler ainsi de nos docteurs zélés, qui étudient la loi, sont stricts dans la pratique des ordonnances, et prennent tant de peine à nous instruire de la pensée de Dieu à partir de Moïse et des prophètes, un tel homme était-il digne de vivre? Non, et il ne montre pas un esprit d'évangile. Voyez combien ces paroles sont tranchantes et amères, car on peut difficilement parler avec plus de dureté, de véhémence et d'indignation d'esprit, et cette dure condamnation pouvait paraître encore aggravée par son propre aveu. Lui-même avait confessé qu'ils étaient assis dans la chair de Moïse. Il aurait donc pu montrer quelque honneur à la chair de Moïse et à leur office qui était de Dieu, et sans doute bon, et ne pas s'employer à les rendre ainsi odieuses aux yeux du peuple. Non, lui-même avait dit aux hommes de faire comme il disait, au verset 3 de ce chapitre. Était-il donc vraisemblable que les hommes prêtent encore attention à ce qu'ils disaient, ou observent leur doctrine, après qu'il les avait ainsi présentés comme oppresseurs de la conscience, verset 4, comme dévorant les maisons des veuves et faisant de longues prières par hypocrisie, verset 14, comme rendant leurs prosélytes deux fois plus enfants de la géhenne qu'eux-mêmes, verset 15, comme négligeant les points plus importants de la loi, la justice, la miséricorde et la foi, verset 23, comme paraissant justes aux hommes. Oui, il les accusa de fermer le royaume des cieux aux hommes, sans y entrer eux-mêmes et sans laisser entrer ceux qui y entraient. Verset 13. Comment pouvaient-ils observer ce qu'ils enseignaient sans les entendre, et le Christ voulait-il que quelqu'un entende de tels hommes? Pourtant, malgré tout cela, sans doute, ils n'étaient pas sans justification contre le Christ à ses égards, et, de l'autre côté, ils avaient aussi leurs accusations prêtes contre lui. Maintenant, comment fermaient-ils le royaume des cieux aux hommes? N'enseignaient-ils pas la loi? Ne dirigeaient-ils pas les hommes vers les ordonnances de Dieu? N'ouvraient-ils pas pour eux les paroles des prophètes? Était-ce là fermer le royaume des cieux? Ne permettait-il pas aux hommes d'y entrer? Mais leur œuvre était de gagner des gens à leur profession. Ils parcouraient mer et terre pour faire un prosélyte. Combien les Juifs auraient-ils pu plaider avec raideur contre le Christ, disant qu'ils calomniaient leurs ministres pieux, qui étaient très laborieux et zélés à ouvrir les Écritures et à enseigner la voie de Dieu? Non, lui-même ne pouvait nier qu'ils enseignaient bien, car il dit « Tout ce qu'ils vous disent d'observer, observez-le et faites-le ». Astérisque Matt 23, 3, mais remarquez maintenant, afin de comprendre la chose. Voici, tout enseignement ou exposition des Écritures hors de la vie ferme le royaume, car la vie est le royaume, et les paroles issues de la vie portent la saveur du royaume, mais les paroles hors de la vie, quand bien même elles seraient très bonnes et vraies, n'atteignent pas la vie chez autrui. Elles ne font qu'édifier une connaissance dans la sagesse mondaine contraire, et enseignent à retenir la vérité dans l'injustice, là où se tient le royaume de Satan, et où il a domination sur tout ce qui est amené. Ainsi ce genre d'enseignement et de connaissances ferme la porte et la voie de la vie, et doit être perdu avant que le royaume puisse être trouvé. Astérisque Matt 23, 3 faites tout ce qu'il vous commande. Mais il est aussi dit, ne vous conformez pas à leurs œuvres, car ils parlent de ce qu'il faut faire, mais ils manquent de mettre en pratique ce qu'ils prêchent. Ils ont fermé le véritable royaume, mais ils en ont ouvert un autre, ils ont ouvert le royaume d'une autre manière, ce qui, en vérité, revenait à le fermer. Et ils avaient des disciples et des enfants du royaume, qu'ils chatouillaient avec l'espérance de la vie, et nourrissaient de promesses et de consolations, mais cela, le Seigneur les exclurait. Beaucoup viendront de l'Orient et de l'Occident, et prendront place avec Abraham, Isaac et Jacob, dans le royaume des cieux, mais les enfants du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors. Matthieu 8, 11, 12. Cela est vrai aujourd'hui, dans la dispensation présente, comme cela l'était alors dans cette dispensation-là. Bien que les hommes en fassent une grande accusation contre nous, nous reprochant de dire que nul n'est le peuple de Dieu si ce n'est nous-mêmes, comme si tous étaient damnés sauf nous. Ce sont là des paroles dures et insipides. Nous ne parlons pas de cette manière, mais nous exposons sobrement l'état de la chose tel qu'il se tient dans la vérité, et tel qu'il nous a été révélé par celui qui est vrai et qui ne peut mentir, à savoir ceci. Ce par quoi les hommes sont sauvés, c'est la dispensation de la vérité dans leur époque. La mesure de lumière que Dieu fait paraître dans chaque âge, c'est le moyen et la voie propre du salut dans cet âge-là, et quoi que les hommes obtiennent, ou professent, de la connaissance de la vérité déclarée dans les âges précédents cependant, s'ils s'en servent pour résister à la dispensation présente de la vérité dans leur âge, ils ne peuvent par là être sauvés, mais ils peuvent par là être endurcis contre ce qui devrait les sauver. Et nous en sommes assurés par le Seigneur, de même que les Juifs ne pouvaient être sauvés par la loi de Moïse, s'en servant en opposition à l'éclat de la lumière de Dieu dans les prophètes en leurs divers âges, ni ensuite ne pouvaient être sauvés en magnifiant et en observant à la fois les paroles de Moïse et des prophètes, et leurs croyances tirées de là en un Messie à venir, s'en servant pour s'opposer à cette apparition de Christ dans la chair, qui était alors la dispensation de leur jour, de même aucun croyant ne peut être sauvé. Il reste encore quelques autres objections contre lui, au sujet du temps de sa mort souffrante, avec la dureté des traitements qu'il subit, lesquels ne doivent pas être entièrement passés sous silence, à savoir 1. Sa réponse irrévérencieuse ou irrespectueuse au souverain sacrificateur, comme il leur semblait, lorsqu'il l'interrogea sur sa doctrine, Jean 18-19. Sa réponse fut qu'il avait parlé ouvertement dans le monde, et non en secret. « Pourquoi m'interroges-tu ? Interroge ceux qui m'ont entendu. » Sur quoi l'un des huissiers le frappa, disant « Réponds-tu ainsi au souverain sacrificateur ?» Verset 20-22. La franchise et la simplicité de la vie qui s'incline devant Dieu et ne peut avoir d'égard pour l'homme dans la transgression paraissent grossières et mal apprises à l'esprit hautain du monde. 2. Son silence devant les témoignages portés contre lui et devant le souverain sacrificateur lorsqu'il l'interrogea. Marc 14, 60-61. En effet, parler ou se taire dans la vie d'offense le croyant charnel, qui ne connaît pas, sur ce point, la loi de la vie, mais peut parler ou se taire selon sa propre volonté. C'est là la différence entre le vrai et le faux chrétien. La connaissance et la religion du faux chrétien tiennent à sa propre volonté, à son propre entendement, il parle en son propre temps, choses qui toutes deux sont crucifiées en celui qui est né de l'esprit. 3. Quand lui-même dit la vérité, le souverain sacrificateur déchira ses vêtements et l'accusa de blasphème. Matt 26, 65. Et ceux qui étaient là se rangèrent du côté du souverain sacrificateur et dirent qu'il était coupable de mort. Verset 66. Alors ils lui crachèrent au visage, le souffletèrent, le frappèrent, se moquèrent de lui, lui bandèrent les yeux et lui donnèrent des coups au visage, lui disant de prophétiser qu'il avait frappé. Matt 26, 67-68 et Luc 22, 63-64. Quand ils l'amenèrent à Pilate, ils voulaient que Pilate tînt pour acquis qu'il était un malfaiteur et digne de mort, car lorsque Pilate demanda quelle accusation il portait contre lui, ils répondirent « Si ce n'était pas un malfaiteur, nous ne te l'aurions pas livré. » Jean 18, 29-30. Pilate refusant de procéder ainsi en jugement, verset 31, ils commencèrent à présenter leurs charges. « Nous avons trouvé cet homme excitant la nation, empêchant de payer le tribut à César, et disant qu'il est lui-même Christ un roi. » Luc 23, 2. Pilate l'examine là-dessus, mais il déclare ne trouver en lui aucun crime. Jean 18, 38. Alors les principaux sacrificateurs l'accusèrent de beaucoup d'autres choses, Marc 15, 3, et devinrent plus acharnés, disant « Il soulève le peuple, enseignant dans toute la Judée, depuis la Galilée jusqu'ici, c'était là en effet son grand crime, il enseignait avec l'autorité de l'esprit et non comme les scribes. » Alors Pilate l'envoya à Hérode où les principaux sacrificateurs et les scribes se tenaient là, l'accusant avec véhémence, qui l'interrogea longuement, mais il ne lui répondit rien. Et Hérode, avec ses gens de guerre, le traita avec mépris et se moqua de lui, puis l'ayant revêtu d'un habit éclatant, il le renvoya à Pilate. Luc 23, 9, 11. Pilate déclara qu'il ne pouvait le trouver coupable de cette seconde accusation, ni d'avoir perverti le peuple. Verset 14. C'est pourquoi, après l'avoir châtié, il voulait le relâcher. Verset 16. Mais le peuple, sur la persuasion des principaux sacrificateurs et des anciens, cria tous à la fois « Ôte cet homme et relâche-nous Barabbas !» Verset 18. Et qu'on le crucifie. Crucifie-le, crucifie-le. Verset 21, etc. Or, quand Pilate lui fait fouetter, et que les soldats l'eurent dépouillé, puis lui eurent mis un manteau écarlate, et posé sur la tête une couronne d'épines tressées, et un roseau dans sa main droite, et qu'ils se furent agenouillés devant lui en se moquant, et lui eurent craché dessus, et l'eurent frappé avec le roseau, il le fit paraître de nouveau devant eux, espérant que cela apaiserait leur malice, et qu'ils consentiraient à épargner sa crucifixion. Ils lui dirent qu'ils avaient une loi, et que selon leur loi ils devaient mourir, parce qu'ils s'étaient fait fils de Dieu. Jean 19, 4-7. Voyez comme ils se tournent et se contorsionnent de toutes les façons pour faire d'un innocent un coupable, et pour qu'une loi, d'une sorte ou d'une autre, puisse le saisir. Mais lorsque toutes leurs accusations ne purent fléchir Pilate, qui toujours, par le sentiment de son innocence, voulait le relâcher, ils usèrent d'un autre artifice subtil, lui disant « Si tu relâches cet homme, tu n'es pas ami de César. » Jean 19, 12. Cela tranche la question pour Pilate. Désormais ils ne discutent plus, mais ils le livrent à leur volonté. Luc 23, 25. Maintenant, toi qui lis ceci, prends garde de juger les Juifs pour toute cette méchanceté, tandis que la même nature est vivante en toi, celle-là même qui fit tout cela en eux. Car assurément toi en qui cette nature, qui le fit en eux, n'est pas soumise, tu aurais fait la même chose, si tu avais vécu en ces jours-là. Toi qui méprises et persécutes l'apparition de Christ en cet âge, tu aurais méprisé et persécuté son apparition en cet âge-là. Ne trompe pas ton âme. Les Juifs pensaient aussi peu qu'ils auraient jamais mis à mort un prophète, ou quelque homme de bien à plus forte raison le Messie, que toi tu peux le penser. Oui, ils pouvaient blâmer leur père d'avoir tué les prophètes, et dire que s'ils avaient vécu en ces jours-là, ils ne l'auraient pas fait, et pourtant tu peux lire ce qu'ils ont fait. L'esprit persécuteur a toujours été aveugle, et en aucun âge il n'a pu lire sa nature mauvaise et amère, et son inimitié contre la vie et la puissance. Ne sois pas aveugle en ton jour comme il l'était au leur, et un ennemi sous prétexte d'être un ami. 4. Une autre objection ou argument contre lui, au sujet du temps de sa mort souffrante, était qu'il ne déploya pas sa puissance pour se sauver de la croix, il a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même, s'il est le Christ, l'élu de Dieu. Luc 23, 35. Est-il vraisemblable que ce soit là le Fils de Dieu, qu'il ait fait tant de miracles par la puissance de Dieu, et qu'il ne puisse maintenant se sauver de la croix? Sa mort souffrante sur la croix fit trébucher et douter quelques disciples, comme il apparaît Luc 24, 20-21, et elle suffisait à renverser la foi de quiconque ne se tenait pas dans l'esprit et dans la puissance. Les soldats aussi pouvaient se moquer et tourner cet argument contre lui, disant « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même », Luc 23, 37. Et ceux qui passaient l'injuriaient, hochant la tête et disant « Toi qui détruis le temple et le rebâtis en trois jours, sauve-toi toi-même, si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix ». Matt 27, 39, 40. De même, les principaux sacrificateurs avec les scribes et les anciens se moquaient entre eux, disant « Il a sauvé les autres, il ne peut se sauver lui-même ». Que le Christ, le roi d'Israël, descende maintenant de la croix, afin que nous voyions et que nous croyions. Marc 15, 31, 32. L'un des malfaiteurs aussi l'injuria, disant « Si tu es le Christ, sauve-toi toi-même et nous aussi ». Luc 23, 39. Et lorsqu'il cria à son Dieu, « Élie, Élie, etc. » Ils se moquèrent de lui. « Cet homme appelle Élie, voyons si Élie viendra le sauver. » Matt 27, 47, 49. Et après sa mort, les principaux sacrificateurs et les pharisiens parlèrent de lui comme d'un trompeur notoire, verset 63, et semblent, dans un zèle pieux pour l'Église, prendre soin qu'il n'y ait plus occasion, après sa mort, de raviver et de répandre sa tromperie et ses erreurs, verset 64. Ainsi le saint, le pur, le juste et le véritable, dans le cœur et la bouche duquel aucune tromperie ne fut trouvée, fut compté parmi les transgresseurs, tenu pour un trompeur et mis à mort comme blasphémateur, par les prêtres et les croyants zélés de cet âge-là, qui étaient si convaincus de la justice de leur cause au nom de la loi de Moïse, de leur sabbat, du temple, etc. Contre lui, que lorsque Pilate se lava les mains comme étant pur de son sang, tout le peuple répondit et dit « Que son sang retombe sur nous et sur nos enfants » Matt 27, 25. Que les hommes considèrent maintenant quelles sont les grandes objections qu'ils ont contre l'apparition vivante de Christ dans son esprit, maintenant vers la fin de l'apostasie, et contre nous les premiers Quakers, ces témoins, que le Seigneur a suscité pour rendre témoignage en son nom. Les hommes ont élevé bien des objections contre nos personnes, notre doctrine, nos pratiques, faute de miracles, etc. Cette génération est-elle plus sage ou plus juste dans ses objections que ne l'était la précédente? Considérons un peu les principales. Leurs grandes objections contre notre doctrine sont 1. Que nous prêchons une lumière au-dedans, et que celui qui reçoit cette lumière reçoit un don parfait. Et qu'en y croissant, il croit jusqu'à la perfection, laquelle, en cette vie, par la foi et l'obéissance à cette lumière ou à ce don parfait, peut être atteinte, et le corps du péché être dépouillé, et l'homme nouveau Christ être revêtu. Réponse : en effet, nous ne pouvons que prêcher la lumière au-dedans, et déclarer aux hommes quelle grande chose elle a faite pour nous, même ce que nous n'aurions jamais pu rencontrer, d'aucune manière, par aucune lumière au-dehors. Et elle est parfaite, et tend à rendre parfait poursuivant son œuvre chaque jour. Or celui qui en sent la vertu ne peut douter de sa puissance. Celui qui voit le corps du péché tomber chaque jour ne peut douter qu'il en sera entièrement dépouillé. Certes, si un homme lutte contre le péché dans sa propre volonté, et par sa propre connaissance acquise, il ne peut guère avancer, et il lui est donc difficile de croire à la perfection. Mais celui qui sent l'unité avec ce qui est parfait ne peut que reconnaître que cela est capable de le rendre parfait, et dans la foi et la patience, il est encouragé à l'espérer et à l'attendre. 2. Que nous nions le Christ qui est mort à Jérusalem, et sa justice imputée, et que nous établissons une justice inhérente. Réponse : nous ne connaissons pas d'autre Christ que celui qui est mort à Jérusalem, seulement nous confessons que notre principale connaissance de lui est dans l'Esprit. Et comme Christ disait au jour de sa chair que la manière de connaître son Père était de le connaître lui, et que celui qui le connaissait connaissait aussi le Père, ainsi nous rendons maintenant témoignage que la manière de connaître Christ est de connaître l'Esprit. Et que celui qui connaît l'Esprit connaît aussi Christ, avec lequel Christ est un, et dont il ne peut être séparé. Et quant à la justice imputée, c'est une chose trop précieuse pour nous pour que nous la nions. Ce que nous nions, c'est que les hommes la mettent hors de sa place, l'appliquant à ceux qui ne sont pas dans la vraie foi et ne marchent pas dans la vraie lumière, car c'est dans la vraie lumière, où la communion est avec le Père et le Fils que le sang purifie, et là seulement. 1 Jean 1, 7. Et c'est là seulement que la justice est imputée à celui qui est purifié par le sang dans la lumière, et non à celui qui ne le connaît pas. Quant à la justice inhérente, nous ne nous mêlons pas de ce terme, mais voici ce que nous disons, que notre vie consiste grandement à sentir la justice de Christ opérée et révélée en nous, et nous souhaiterions que les hommes sortent des raisonnements à ce sujet pour entrer dans le sentiment de la même chose avec nous, car alors nous sommes sûrs qu'il ne contesterait pas si âprement, ni si longtemps. 3. Que nous nions les ordonnances et les moyens du salut. Réponse : nous ne nions rien de ce que les apôtres et les chrétiens pratiquaient autrefois, et nous ne nions rien non plus de ce que certains pratiquent maintenant dans la lumière et dans la foi, mais l'établissement de ces choses dans la volonté, nous le nions, et l'imitation de ces choses sans le commandement de l'Esprit, nous la nions également. Et nous témoignons de ceci, c'est ici qu'Antichrist s'est glissé, et que ces choses sont son grand voile pour détourner les hommes de la vie, et c'est pourquoi nous avertissons les hommes de veiller à la vie, et de prendre garde de ne pas être tenus éloignés de la substance par les ombres, là où Antichrist se tapit, pour ensorceler et éloigner de la substance. Et nous sommes certains que ces choses, entre les mains d'Antichrist, ne sont pas les moyens du salut, mais qu'elles empêchent de voir la cité sainte, où sont la vie et le salut. Et nous lisons que le parvis extérieur fut donné aux nations, qui y foulèrent aux pieds la cité sainte. Apoc 11:2. Et nous avons trouvé par expérience que, tandis que nous-mêmes exalcions le parvis extérieur, nous foulions aux pieds la cité, quoique nous ne le sachions pas alors. Leurs objections contre nos personnes sont que nous sommes ignorants, incultes et aussi des personnes instables, qui avons toujours été à chercher ça et là. Réponse : quelle personne Dieu est-il le plus apte à employer pour retirer son peuple de l'apostasie ? Dieu ne choisit-il pas ce qui est faible, bas et méprisable, afin que sa gloire paraisse d'autant plus ? N'est-ce pas un moyen plus probable pour lui d'entrer à pas feutrés dans le monde, que s'il apparaissait parmi les sages et les savants, et parmi qui doit-on attendre son apparition ? Parmi ceux qui sont établis sur leur lit dans l'apostasie, ou parmi ceux qui ont pleuré, haleté et cherché à en sortir, et ne pouvaient être établis sans qu'il leur apparaisse et fixe leurs pieds sur le rocher, mais avons-nous été instables depuis que Dieu nous a affermis sur le fondement vivant ? Non, il n'y a plus d'aller et venir, mais celui qui demeure fidèle reste un pilier dans la maison de Dieu. Les hommes font aussi objection à nos pratiques, en disant que nous ne témoignons pas de respect aux personnes, et que nous ne sommes pas stricts, selon leur manière, dans les devoirs, etc. Réponse : nous avons entendu cette voix, craignez Dieu, et donnez-lui gloire, Apoc 14:7 non seulement comme cela est écrit, mais en esprit, et là où le Seigneur est exalté, la gloire de la créature tombe, lisez Ésaïe 2, comment tout tombe en ce jour-là, afin que Dieu seul soit exalté. Et nous ne pouvons plus, en ce jour puissant du Seigneur, donnez à l'homme cet honneur qu'il a amassé dans la chute, et qui plaît à la nature déchue, et non à ce qui est né de Dieu. Et quant au devoir, nous avons déploré devant le Seigneur notre ancienne course vers les devoirs sans son esprit, et nous devons confesser que nous ne pouvons prier que dans l'esprit, chanter dans l'esprit, attendre dans l'esprit, parler dans l'esprit selon qu'il donne l'expression, et non de nous-mêmes, ni quand nous le voulons, mais selon que nous voyons la vie, la force et la puissance d'en haut nous conduire et nous assister. Notre religion ne consiste ni à vouloir ni à courir, mais à attendre l'Esprit et la puissance du Seigneur, afin qu'il accomplisse tout en nous et pour nous. Nous regardons toutes ces choses comme notre devoir et nous les pratiquons. On nous reproche aussi de ne pas faire de miracles. Réponse : nous renvoyons à ce qui opéra jadis tous les miracles extérieurs, et qui opère maintenant de grands miracles intérieurs en esprit, et nous sommes certains que la même puissance par laquelle nous avons reçu l'Évangile est de la même vertu de guérison. Mais cette puissance agit selon le dessein de sa propre volonté, et non selon la volonté de l'homme. Oui, bien que Paul eut le don de guérison, pourtant il laissa Trophime malade à Milet. 2 Tim 4:20 Et la volonté ou la sagesse de l'homme ne furent pas satisfaites dans tous les miracles que Christ et les apôtres opérèrent. Il nous suffit de sentir et de vivre dans le mouvement de la puissance. Nous nous en réjouissons, et nous en sommes plus satisfaits, parce que nos noms sont écrits dans le livre de vie, que nous ne pourrions l'être par quelque apparence et manifestation extérieure et visible de celle-ci. Mais même lorsque nous faisons des miracles extérieurs, si vous n'avez pas un œil intérieur pour les voir, vous ne seriez pas capable de les distinguer, ni de savoir par quelle puissance ils ont été accomplis. À quoi bon mentionner encore d'autres détails, n'est-ce pas assez, ô craignez devant le Seigneur ? Et ne perdez pas la dispensation présente de la vie par erreur, ou parce que vous ne pouvez avoir des choses adaptées à vos volontés corrompues, mais connaissez l'Évangile qui est une dispensation intérieure, et ne consiste pas en nombre extérieur, mais en vertu, vie et puissance intérieure, car le royaume de Dieu, c'est justice, paix et joie dans le Saint-Esprit. Venez attendre cela, le sentir, vous y unir, et alors nous ne différons pas au sujet de ce qui est extérieur. Mais c'est la voie d'Antichrist, par le pouvoir du magistrat, de forcer un accord sur l'extérieur, ce qui détruit cette délicatesse de conscience qui préserve l'intérieur. Et maintenant, laissez-moi vous poser une question, où doit-on s'attendre à trouver la tromperie des âges après Christ ? Les Juifs niaient-ils les écrits de Moïse et des prophètes, ou les ordonnances ? Non, n'étaient-ils pas au contraire très zélés pour celles-ci ? Et n'était-ce pas là leur couverture, sous laquelle ils persécutaient Christ et déchaînaient toute leur malice contre lui. Ainsi peut-on s'attendre maintenant à ce que les trompeurs de cet âge nient les écrits des apôtres, ou les pratiques qui y sont mentionnées, ou ne doit-on pas plutôt s'attendre à ce que, tout en les exaltant, ils cachent leur inimitié contre la vie? Cherchez et voyez, n'est-il pas vrai que chaque âge de croyants a repris les paroles et les pratiques de ceux qui furent persécutés dans l'âge précédent, et que, sous la profession de ces paroles et pratiques, ils ont caché leur esprit de persécution? Il n'y a qu'un reste parmi les croyants qui soient sauvés. La généralité d'entre eux ont toujours été persécuteurs, se glissant dans la forme, se la mettant sur le dos comme couverture, puis combattant la vie et la puissance. Oh, attendez le Seigneur dans sa crainte, afin d'être jugé digne de connaître la vérité persécutée d'un côté, et l'esprit persécuteur de l'autre, en ce jour de grande profession et aussi de persécution amère. Quelle pouvait donc être la cause, ou comment se faisait-il que les adorateurs zélés de cet âge se trompassent ainsi dans leurs ailes, et fussent ainsi emportés et téméraires contre celui qu'ils attendaient comme leur sauveur? Comment vinrent-ils à se tromper ainsi dans la vision, et à trébucher dans le jugement, en une affaire si importante? Montrez-nous la cause, afin que nous voyions si la même cause n'est pas en nous, car assurément, si elle y est, elle produira le même effet, et ainsi nous pourrions, dans l'ignorance, attirer sur nos têtes en notre jour la même lourde colère qu'ils attirèrent en leur jour. Réponse : les causes furent très nombreuses, je puis en mentionner quelques-unes des principales, lesquelles, si elles sont vues et ôtées par la puissance qui en est capable, celles qui sont d'une influence plus faible ne pourront subsister. 1. Une cause de leur zèle aveugle et de leur amertume contre Christ fut leur ignorance des Écritures et de la puissance de Dieu. S'ils avaient connu les Écritures dans la vraie lumière, ils n'auraient pu ne pas connaître Christ, duquel les Écritures ont été produites, et s'ils avaient connu la puissance de Dieu, ils n'auraient pu ne pas connaître celui qui vint dans la puissance, oui, qui était la puissance. Ils avaient assez de connaissances de l'une et de l'autre en un sens, c'est-à-dire dans la lettre. Ils connaissaient les paroles de l'Écriture, ils pouvaient en faire de longs exposés, ils savaient ce que l'Écriture disait concernant la puissance de Dieu, mais ils ne connaissaient pas la chose elle-même, et ainsi ils se tournèrent contre elle, et se servirent des paroles, qui venaient d'elle et rendaient témoignage d'elle contre elle. 2. Une seconde cause de ce triste égarement dans leur zèle fut qu'ils mirent la loi, les ordonnances et les écrits des prophètes hors de leur place propre. Ils les magnifiaient à l'excès et les exaltaient, selon la manière charnelle par laquelle ils les comprenaient et les pratiquaient, mais n'en comprenaient pas la fin et l'usage juste. Par ces moyens, pratiquant les ombres dans l'esprit charnel, ils perdirent la substance vers laquelle l'usage propre des ombres devait les conduire. 3. Leur haute opinion de la bonté de leur état par rapport à Dieu, et de la certitude de leur connaissance des vérités de Dieu tirées de Moïse et des prophètes. Ils étaient persuadés qu'ils connaissaient Dieu correctement astérisque, et qu'il était leur père, et qu'ils étaient ses enfants, son peuple. Ainsi, Christ apparaissant en une contrariété apparente avec ces choses, malgré toute sa prédication puissante et ses miracles, ils ne doutèrent nullement qu'ils pouvaient hardiment conclure qu'il n'était pas de Dieu. Astérisque Dieu n'est pas connu par la lecture de l'Écriture. Dieu n'est pas connu en fréquentant un institut biblique. Dieu n'est pas connu en écoutant des prédicateurs exposer leurs opinions au sujet de Dieu. Dieu n'est connu que par ce que Dieu révèle au-dedans du cœur de l'homme, uniquement par révélation. Le Père n'est connu que par le Fils qui le révèle, et le Fils n'est révélé que par le Père. 4. La venue de Christ d'une manière qu'ils n'attendaient pas. Ils avaient conclu, d'après les Écritures, comment Christ devait apparaître, et lui venant d'une manière fort différente, ils ne pouvaient le reconnaître, mais le regardaient comme un imposteur, quelqu'un qui prétendait être Christ, mais qui ne ressemblait pas à ce que l'Écriture disait de Christ. Ainsi, ce que l'Écriture dit de la seconde venue de Christ est autant caché à l'œil charnel des croyants de cet âge que ce qui était dit de sa première venue était caché à leur œil en leur âge, et il viendra sur eux comme un voleur, en un temps, d'une manière et selon un mode qu'ils n'attendent pas. 5. Cette raison est la principale et la cause de toutes les précédentes. Parce qu'ils s'étaient détournés de la lumière au-dedans, de la vraie lumière dans leur propre cœur et conscience. La lumière au-dedans est la grande ordonnance de Dieu, et le moyen propre de donner la connaissance de lui, 2 Cor 4-6, sans laquelle elle ne fut jamais reçue sous aucune dispensation par la lumière qui brille au dehors ou du dehors, la connaissance au sujet de Dieu ne peut être connue et reçue que par la lumière qui brille au dedans. Christ lui-même l'explique en une parabole, « La lampe du corps, dit-il, c'est l'œil, si donc ton œil est simple, clair, sans rayon ni tache, tout ton corps sera plein de lumière. » Matthieu 6-22. Mais si cet œil est mauvais, s'il est obscur, s'il est fermé par le Dieu de ce monde, toutes les paroles de Moïse, toutes les paroles des prophètes, oui, toutes les paroles de Christ et de ses apôtres ne peuvent te donner la lumière. Puis-je voir la lumière du soleil, de la lune, des étoiles, ou d'un feu ou d'une chandelle, si je n'ai pas d'œil naturel, et si cet œil naturel n'est pas ouvert? Ainsi non plus, ne puis-je voir la lumière d'aucune dispensation de vie, si je n'ai pas en moi un œil intérieur ouvert par lequel la voir. Ainsi ce qui me donne la vue des choses de Dieu, c'est l'œil que Dieu m'a donné. Par lui peuvent être lues la puissance éternelle et la divinité dans les créatures, dans les livres de Moïse et des prophètes, dans les écrits des évangélistes et des apôtres, selon que l'Esprit conduit et ouvre. Oui, le même Esprit, qui ouvrit à cela 100 livres, peut de nouveau ouvrir à l'un quelconque d'entre nous 100 livres, selon son bon plaisir et ne sera pas limité aux livres, et alors nous aussi nous pouvons lire comme eux, même au-dedans, dans l'Esprit, et dans la vie immédiate, mais sans cet Esprit, aucune de ces choses de Dieu ne peut être lue correctement. Or le Dieu de ce monde avait aveuglé cet œil chez les Juifs, oui, eux-mêmes avaient bouché leurs oreilles et fermé leurs yeux, etc. Ils ne voulaient pas voir de cette manière, ils ne voulaient pas être convertis et guéris par cette voie. Ils voulaient conserver la connaissance qu'ils avaient amassée de Moïse et des prophètes, sans cet œil, et par là ils voulaient voir, ou ne pas voir du tout. Ainsi s'étant détournés de la lumière au-dedans, ils ne pouvaient voir le lieu de vie au-dedans, où la vie doit être reçue, ils ne pouvaient voir le sein de la sagesse qui est au-dedans, et ainsi ne pouvaient y entrer et naître de nouveau. N'étant pas né de la sagesse, comment auraient-ils pu justifier la sagesse? N'étant pas né de la lumière, comment auraient-ils pu connaître ou reconnaître Christ, dont la venue et l'apparition étaient dans la lumière? Car cette apparition de Christ, la vie, dans ce corps de chair, ne pouvait être discernée par la sagesse de la lettre, si grande fut-elle, les disciples eux-mêmes ne vinrent pas à la connaître ainsi, mais mon Père qui est aux cieux te l'a révélé. Et notez ceci, les disciples, qui étaient illettrés et ne connaissaient pas si bien les Écritures écrites au sujet de Christ, connaissaient pourtant Christ, mais les scribes et les pharisiens, qui étaient très habiles dans la lettre, ne pouvaient le connaître. Quelle en était la raison? Elle tenait à la différence de l'œil, ou de la lumière, avec lesquels ils regardaient, l'un regardait avec un œil extérieur, l'autre avec un œil intérieur. Un peu de lumière intérieure fait ce qu'une grande quantité de lumière extérieure ne fait pas. Je puis affirmer avec certitude que toute la lumière que les hommes peuvent recueillir des Écritures ne peut leur donner la connaissance de Christ tel qu'il est apparu en cet âge, non, ni tel qu'il est apparu en aucun âge depuis les jours des apôtres. Mais un peu de vraie lumière intérieure donnera la connaissance de cette chose, et ouvrira infailliblement, en son temps ces Écritures au sujet desquelles toutes les générations d'hommes sages et savants ont argumenté et disputé, dans cette sagesse et cet esprit de recherche par lesquels ils ne les comprendront. Voilà donc la raison principale et pleine de l'erreur profonde des Juifs et de leur naufrage désespéré sur le rocher qui les aurait sauvés. Ils avaient été engendrés par la lettre qui avait été produite dans les âges précédents, mais non par la vie qui était suscitée en leur âge, et ainsi ils ne savaient pas comment se tourner vers la lumière au-dedans d'eux-mêmes, laquelle seule pouvait leur donner la connaissance vraie et certaine des choses de Dieu. Considérez maintenant bien ces choses, ô vous croyants de cet âge, et prenez garde de ne pas tomber selon le même exemple d'incrédulité, ne soyez pas hautains mais craignez. Ne soyez pas si assurés que ce que votre sagesse a recueilli des Écritures est la vérité à la manière dont eux étaient assurés de ce que leur sagesse avait recueilli, mais craignez d'être dans l'erreur comme eux, et attendez l'ouverture de cet œil en vous qui était fermé en eux, l'œil véritable, dans la lumière véritable, par la sainte onction, là où il n'y a jamais eu et ne peut y avoir aucune erreur. Les Juifs tombèrent par l'incrédulité. Incrédulité de quoi? Ils croyaient les Écritures, ils croyaient selon la connaissance qu'ils avaient recueillie des Écritures, mais ils ne croyaient pas en la parole vivante. Ils avaient en eux une connaissance demeurante qu'ils avaient recueillie des Écritures, mais ils n'avaient pas la parole vivante demeurant en eux, et ainsi leur foi n'était qu'incrédulité, car la foi vivante consiste à croire à la parole vivante dans le cœur, vers laquelle les Écritures dirigent, sans la connaissance de laquelle toute connaissance des mots est vaine, et sans la foi en laquelle toute foi est vaine aussi. Or l'apôtre dit aux chrétiens d'entre les nations, « Tu subsistes par la foi. » Romains 11-20. Par quelle foi? Par la foi en cette parole dans le cœur qu'ils avaient négligée et dont ils s'étaient détournés. Romains 10-8. Car Moïse leur avait enseigné, après les lois et ordonnances touchant le culte et les sacrifices, que la parole qu'ils devaient obéir et faire, la parole qui pouvait leur donner la vie et les rendre obéissants à tous les commandements extérieurs était dans leur cœur et dans leur bouche. 2:30-14. Et ainsi le prophète Michée, lorsqu'il proposait des sacrifices et de l'huile pour plaire à Dieu, les ramène à ceux-ci, qui leur étaient donnés en commun avec l'humanité. Michée 6:8. Car toutes les ordonnances, lois, observations et pratiques extérieures ne sont là que pour conduire à la vie intérieure, qui doit s'y retrouver, là même où elle fut perdue et où elle gît encore mise à mort et cachée, dans le champ ou la maison où elle fut perdue. Et celui qui cherche au dehors ne la trouve jamais, mais quand la chandelle est allumée dans sa propre maison, et qu'il cherche avec soin dans le champ de son propre cœur, et que l'œil éternel commence à s'ouvrir en lui, alors il s'écrie « Dieu était en ce lieu, et je n'en savais rien. » Ah, comme l'ennemi m'a ensorcelé, me faisant courir de montagne en montagne, et de colline en colline, et par là il a couvert mon œil, m'empêchant de contempler la montagne de la maison du Seigneur, et de sentir la source de ma vie, dont je m'éloignais toujours davantage, tandis que je cherchais au dehors. C'est pourquoi, ô vous, les professants, ne soyez pas si suffisants comme les Juifs, et ne courez pas après eux dans leur désolation et leur misère, mais apprenez la sagesse par leur chute, ne dressez pas vos ordonnances et vos écritures à la manière dont ils dressèrent les leurs, car voilà votre danger. Car ceci, je vous l'atteste clairement, dans la lumière du Seigneur, si vous recueillez une connaissance et une sagesse de la lettre des Écritures, à la manière dont ils le firent, sans connaissance de la parole au-dedans, et sans une lumière au-dedans venant de cette parole, vous perdez la foi vivante, vous n'êtes que des branches mortes, et toute votre connaissance des Écritures, vos pratiques, votre foi, vos devoirs, etc. Que vous tenez et observez ici, ne sont que pour le feu, et les flammes de la colère éternelle s'enflammeront plus furieusement sur vous à cause de cela que sur les Juifs, car vous heurtez la même pierre d'achoppement sur laquelle ils ont trébuché et sont tombés, et elle tombera aussi sur vous. Et comme vous avez plus d'écriture qu'eux, et l'expérience de leur chute pour vous avertir, ainsi votre destruction sera extrêmement redoutable si vous négligez un si grand salut, duquel, en ce jour, il y a tant de témoins vivants et puissants, tels qu'ils sont connus et reconnus dans la lumière du Seigneur, bien que méprisés dans votre sagesse exaltée et suffisante. Pour aider quelques cœurs honnêtes et simples parmi vous à franchir ce grand obstacle d'une lumière au-dedans, considérez ces quelques points. 1. Que toute la connaissance, toute la vraie connaissance que vous avez jamais eue de Dieu, venait d'une lumière au-dedans. Je ne nie pas que vous ayez pu recevoir votre connaissance par les Écritures, et autrefois quelque chaleur dans ces choses que vous appelez ordonnances et devoirs. Mais ce par quoi vous receviez la connaissance, c'était la lumière au-dedans, l'œil que Dieu ouvrait secrètement dans vos esprits. C'est ainsi que vous y êtes parvenu alors, quoiqu'il se puisse que vous sentiez la chose sans savoir comment vous y étiez parvenu, de même qu'un enfant peut voir véritablement sans comprendre son propre œil, ni savoir comment il voit. En étudiant la Bible sans attendre en silence pour entendre le Seigneur, vous ne recevrez que des miettes de la table, tandis que vous êtes assis par terre. 2. Tant que cet œil a été maintenu ouvert en vous, votre connaissance était vraie dans sa mesure, et utile pour vous, et vous rapprochait de Dieu, vous rendant véritablement délicat, doux, humble, patient, aimant, bienveillant, et plein de précieux soupirs vers Dieu et vers la justice. Oh, combien étiez-vous aimable à Dieu dans cet état, quand Israël était enfant, je l'aimais. Dieu se souvient aujourd'hui de la bonté de votre jeunesse et il vous cherche. Oh, pourquoi endurcissez-vous ainsi vos cœurs contre lui? 3. Que partout où cet œil est fermé, la vertu de la vraie connaissance est perdue, et ses doux fruits se flétrissent. La partie extérieure de la connaissance peut être retenue, oui, peut être augmentée, mais la vie s'en est allée, et la pure douce saveur pour Dieu a disparu. Et si cet œil n'était qu'un peu rouvert en vous, votre mort et votre insipidité pourraient bientôt être vues et senties en vous, dans toute votre connaissance, vos devoirs, vos ordonnances, oui, dans vos grâces même et vos expériences. Vous avez encore une foi, oui, mais elle manque de la saveur de votre foi d'autrefois, vous avez une certaine sorte d'amour, de douceur et de mansuétude, oui, mais ce n'est qu'une chose formée par la sagesse charnelle et les raisonnements, et non quelque chose de naturel provenant de la source vivante, non telle que vous la sentiez autrefois, etc. Car l'œil vrai et vivant étant fermé, ce qu'il y a de meilleur alors ou ce qui est atteint ensuite, n'est tenu que dans la partie morte et ne sert qu'à nourrir la mort. Pennington fait référence à cette expérience du premier amour envers le Seigneur, lorsque l'Esprit nous touche, avec un aperçu de sagesse et un goût du ciel. Ce toucher est un appel à le chercher de tout notre cœur et de toute notre âme, mais cet appel à chercher est trop souvent détourné par l'appel des sectes de Babylone vers ses sacrements, cérémonies, rituels païens, credo creux, réassurance que le péché continué est acceptable, et fausses promesses de ciel après la mort. 4. Le grand travail et dessein de l'ennemi de vos âmes n'est pas de vous voler la masse de votre connaissance, ni de vous détourner des ordonnances ou des devoirs, mais de dérober la vie hors de vos esprits. Je l'ai éprouvé depuis mon enfance. J'aurais pu conserver encore assez de connaissances de toutes sortes, mais ce qui me manquait, c'était la vie, et j'étais toujours malade sous toutes les sortes de connaissances que je rencontrais, et sous toutes les ordonnances et tous les devoirs, faute de la vie. Le Seigneur avait donné à mon âme un goût de la vraie vie, par quoi je devenais insatisfait sans elle, et aucune connaissance ni jouissance quelconque ne pouvait me contenter en chemin. Oui, lorsque, par extrémité, je semblais disposé à me contenter de n'importe quoi, mon cœur restait pourtant malade après cette seule chose, qui seule pouvait vraiment le soulager et le satisfaire. Or, si l'ennemi peut prévaloir en ceci, à savoir aveugler l'œil intérieur et voler la vie au-dedans, il en a assez. Alors abondez autant que vous voudrez en connaissance, en zèle, en devoir, en ordonnance, en lecture des Écritures, en prière, en méditation, etc. Vous êtes d'autant plus sûrement à lui à Satan par là, et d'autant meilleur serviteur pour lui. Car plus vous êtes riche en connaissance, expérience, espérance et assurance, sans la vie et la puissance, plus vous êtes acceptable, honorable et utile dans son royaume. Voyez donc où vous en êtes. L'œil intérieur est-il ouvert en vous ? Connaissez-vous la lumière au-dedans ? Assurément, celui qui voit par une lumière intérieure peut difficilement en dire du mal. Ou bien l'ennemi, par quelques-uns de ses artifices, a-t-il tiré un voile sur cet œil par lequel, jadis, vous voyiez en quelque mesure ? Oh, ne soyez pas léger dans une affaire d'un si grand poids, oh ! Ne vous complaisez pas dans l'œil de la sagesse périssable, dans l'œil de la mort, et dans la connaissance des Écritures et du Fils de Dieu qui vient de la mort, laquelle dit de grandes paroles sur la renommée de la vraie sagesse, mais demeure étrangère et ennemie de la réalité même. Oh, la vie est précieuse, la vie éternelle est précieuse. Avoir la parole de Dieu demeurant dans le cœur, et sentir la vraie lumière donner la vraie vie, qui peut en estimer le prix ? Ah, ne perdez pas vos âmes pour une bagatelle, pour un peu de cette connaissance des Écritures que la partie terrestre peut amasser. Je ne puis que la mépriser extrêmement, bien que j'honore véritablement les Écritures, pour leur témoignage de ce par quoi je vis. Si vous ne voyez pas la voie de la vie par la lumière intérieure, laquelle seule peut la montrer, vous perdez vos âmes. Si le Dieu de ce monde a aveuglé cet œil en vous, que sont tous vos trésors de sagesse et de connaissance, que sont tous vos espoirs, et que deviendrez-vous ? Toutes ces étincelles allumées de votre propre feu à partir des Écritures ne vous mettront pas à l'abri du lit de douleur. Ô vous diverses sortes de professeurs, pourquoi voulez-vous mourir avec les incirconcis ? Pourquoi descendrez-vous dans la fosse, parmi ceux qui ne connaissent pas le Seigneur ? Mais que dirai-je à cette génération ? Les sages selon l'esprit prévoient la tempête et se cachent, mais les insensés selon l'esprit courent témérairement en avant et sont punis. Les nuages s'amassent depuis longtemps, mais l'œil malade ne peut discerner les signes des temps et des saisons, et ainsi, parce que le jugement ne vient pas comme les hommes s'y attendaient, ils s'endurcissent et s'émoussent quant aux sentiments dont ils étaient quelque peu touchés lors de la première menace. Mais assurément, jugement et miséricorde se hâtent, ils viendront et ne tarderont pas. Car le même Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui confondit la Babel des païens lorsque leurs péchés et leur vaine confiance furent à maturité, qu'ils bâtirent pour prévenir tout déluge à venir, car bien qu'ils eussent autrefois la vraie connaissance de Dieu par une lumière intérieure, Romains 21, ils l'abandonnèrent bientôt, n'ayant pas jugé bon de retenir Dieu dans leur connaissance, verset 28, mais se livrant à leurs imaginations et bâtissant ainsi une Babel, par laquelle leurs cœurs insensés furent obscurcis à la lumière que... Car leur ville aussi sera renversée avec violence, et ne sera plus jamais retrouvée, rêve 18-21. La grande œuvre de ce jour est de découvrir la pourriture de leurs murs et l'état non détrempé du mortier dont ils l'avaient badigeonné, que celui qui l'y comprenne, mais les incirconcis de cœur et d'oreille ne le peuvent. Le but de ce site web est de montrer comment devenir libre du péché en bénéficiant de la puissance transformatrice de Dieu par la croix, qui conduit à l'union avec Dieu dans son royaume.